Alors c'est aussi ça l'Église. Voilà le titre que je vous propose ce matin, d'aller encore un petit peu plus loin et d'approfondir ce que nous avons entendu la semaine dernière. Nous avons entendu tellement de témoignages et vraiment, nous avons vu comment Dieu agit dans les vies et dans les cœurs. Et j'aimerais commencer juste par un témoignage. Un témoignage en trois moments, trois regards sur l'Église. Et c'est le témoignage d'un homme qui s'appelle Claude. Et voilà ce que nous raconte Claude, et je vais vous le partager. Trois temps, trois moments de vie, trois manières de voir l'Église. Avant de connaître Jésus, l'Église, pour moi, c'était d'abord un bâtiment. Un endroit où on entre et où on chuchote, où on s'ennuie un peu. Je me disais, ah, ces gens-là, ils ont besoin d'une béquille. Et moi, ça va, moi je n'ai pas besoin de ça. Voilà ce que Claude se disait en lui-même. Et peut-être que certains aujourd'hui peut-être se disent un peu la même chose, peut-être que vous l'avez pensé, peut-être que vous le pensez encore, mais l'Église, est-ce que c'est une institution? Est-ce qu'elle est codifiée? Est-ce qu'elle a des règles? Oui, mais pas que. Et puis un jour, voilà que Claude fait une rencontre. Il rencontre Jésus-Christ. Il ne rencontre pas d'abord un bâtiment, pas un livre de théologie, mais une vie. Et il la rencontre à un moment où lui-même, sa vie est cassée, fracturée, où il n'a plus de réponse en lui-même. Et quand plus rien ne tient, alors curieusement, on devient parfois plus attentif. Et là, quelque chose a changé chez Claude. Pas tout de suite avec l'Église, mais d'abord avec lui. Il dit « J'ai appris que Jésus n'était pas qu'une personne historique, c'était quelqu'un de vivant, quelqu'un qui me parlait, quelqu'un qui m'avait attendu. » Mais alors une question est arrivée tout de suite après, si Jésus est vivant, s'il m'a trouvé, qu'est-ce que je fais maintenant? Tout seul dans mon coin peut-être, avec mon téléphone, peut-être trois podcasts chrétiens, peut-être deux, trois louanges, ou bien il y a quelque chose d'autre qui m'attend. Et puis l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a un moment où Claude a pris une décision, et cet après-midi, on aura trois personnes qui ont pris une décision de suivre Jésus-Christ en passant par les eaux du baptême. Et Claude passe effectivement lui aussi par les eaux du baptême. Et ce jour-là, il dit ceci, « J'ai compris quelque chose que je n'avais pas compris avant. Quand je suis sorti de l'eau, je n'étais plus seul. Je n'étais plus un croyant isolé avec une foi privée. J'étais entré dans quelque chose de plus grand que moi, une famille, un corps, un peuple. Et depuis ce jour-là, l'Église, ce n'est plus une option pour moi, dit Claude, c'est une maison, c'est ma maison, c'est mes frères, mes sœurs. C'est là où Jésus m'a placé pour vivre, pour aimer, pour grandir, pour servir et un jour pour mourir. » Voilà le témoignage de Claude. Et aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin et on va se rappeler ce que Jésus lui-même dit de l'Église et qu'est-ce que l'apôtre Paul enseigne également. Alors ça va, on a une heure devant nous. Non, j'ai prévu aujourd'hui de prêcher courtement. Nous sommes humains et nous voulons ménager aussi les corps que Dieu nous a donnés. Alors voilà, nous allons voir quelques points. L'Église, c'est d'abord l'idée de Jésus, pas la nôtre. L'Église, c'est un corps, pas un bâtiment, pas un public. Et l'Église, c'est une famille où Dieu est le Père. L'Église, c'est une fiancée qui attend le retour de Jésus, de Jésus-Christ. Premièrement, donc, l'Église. L'Église, c'est d'abord l'idée de Jésus, pas la nôtre. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'Église, ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas une ONG religieuse, ce n'est pas une association, ce n'est pas un club du dimanche matin. C'est Jésus qui parle le premier et on va voir de quelle manière il en parle. Il y a un moment décisif d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu. Jésus emmène ses disciples à Césarée de Philippe et il leur pose la question « Pour vous, qui suis-je ?» Et Pierre répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et c'est là, et c'est à cet instant précis, que Jésus prononce pour la première fois le mot d'Église. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voyez là, il y a une chose importante, Jésus dit « mon Église ». Pas votre Église, pas la mienne, c'est son Église. C'est pas l'Église de Pierre, même pas l'Église de Pierre. Pas l'Église d'une grande assemblée, c'est bien la sienne. Il affirme qu'il est le propriétaire. Il en est l'architecte, il en est le bâtisseur. Et ça change tout. Ça change tout parce que si l'Église, ce n'est pas à moi, et lorsque je peux la quitter, quand elle ne me plaît plus, mais si c'est l'Église de Jésus, alors quand je la quitte, c'est quitter quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est partir de chez quelqu'un. Le mot que Jésus utilise en grec, c'est « ecclésia », et ça veut dire « ceux qui sont appelés du dehors ». Ceux qu'on a appelés pour qu'ils sortent, sortir de quoi, vous me direz ? Eh bien, sortir de leur ancienne vie, sortir du monde, sortir des mauvaises habitudes, sortir de la solitude, sortir de la mort spirituelle. Et l'Église, étymologiquement, c'est aussi une convocation. Quelqu'un nous appelle par notre prénom et nous dit « Sors, viens, rejoins-moi, rejoins-nous. » Et ce quelqu'un que nous rejoignons, c'est Jésus. Ceux qui sortent et qui viennent pour rencontrer Jésus, c'est nous. Donc la première chose à retenir, et c'est un élément fondamental, c'est l'Église n'est pas un groupe qu'on rejoint comme on rejoint une association. C'est d'abord une réponse à un appel, à une formidable invitation. Et je dirais même peut-être à la meilleure invitation de toute notre vie. L'Église, c'est aussi un corps, pas un bâtiment, pas un public. Maintenant, Paul, parce que Jésus pose la base, et c'est Paul qui développe, Paul a écrit la moitié du Nouveau Testament, et en parlant de deux choses essentielles, première chose, qui est Jésus ? La deuxième chose, c'est quoi l'Église ? Et l'image principale que Paul utilise pour parler de l'Église, ce n'est pas l'image d'un bâtiment, pas du tout, ce n'est pas l'image d'un public, encore moins, et ce n'est pas l'image d'une famille au début, mais c'est bien l'image d'un corps. Qu'est-ce que ça veut dire ? 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Alors on prend le temps de considérer qu'est-ce qu'il veut dire par là. Il y a des médecins, il y a des soignants, vous savez ce que c'est qu'un corps ? Nous-mêmes, nous avons tous un corps, Dieu merci. Mais pourquoi cette image ? C'est un ensemble de parties très différentes qui fonctionnent tout ensemble. Ma main toute seule ne sert à rien. Mon œil tout seul ne sert à rien tout seul. Mais relié à la tête, animé par un cœur qui bat, mes membres deviennent alors capables de faire des choses extraordinaires, des choses incroyables. Paul dit que l'Église, c'est ça. Un ensemble, un assemblage de gens très différents les uns des autres. Nous sommes tous différents. Différents en âge, différents par nos milieux d'origine, différents par nos caractères, différents par nos dons, différents par nos blessures, différents par nos passifs, mais reliés à une même tête qui est Jésus-Christ. Et animé par un même et seul esprit, l'esprit du Dieu vivant. Dans Éphésiens, chapitre 4, au verset 15 et 16. « Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards, en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie. » Trois conséquences directes. Conséquence numéro un, tu es, frères et sœurs, tu es indispensable. Tu es un chrétien, et si tu es un chrétien d'ailleurs, et si tu te dis, mais je ne sers pas à grand chose, eh bien écoutez, corrigez cela tout de suite, demandez à Dieu de renouveler vos pensées, parce que c'est une erreur. Un corps qui perd un membre, c'est un corps qui boite. Ta présence n'est pas optionnelle, elle est vitale dans le corps de Christ. Conséquence numéro 2, les autres sont indispensables. Oh mince. Ben oui, les autres sont indispensables. Tu ne peux pas être chrétien tout seul. Ça n'existe pas dans la Bible. Un chrétien isolé, c'est un membre coupé du corps. Et un membre coupé du corps, ça ne survit pas longtemps. Aujourd'hui, à l'époque peut-être des podcasts, des replays, c'est une tentation énorme hein, de vivre des fois à l'église, peut-être du bord de son canapé. Alors il y a des circonstances, la maladie, des chaleurs excessives, bien sûr, il n'est pas interdit d'aller et de rester parfois si l'état et notre situation ne peut pas faire autrement. Mais d'avoir une conception exclusive que je peux vivre l'église sur mon canapé, ce ne serait pas une vision biblique, ce ne serait pas une vision, celle que Christ a enseignée. Conséquence numéro 3, on n'a pas le droit de mépriser les membres, les autres membres de l'Église. Paul est très clair, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Oh. Le fort ne peut pas mépriser le faible. Ah. L'ancien ne peut pas dire et ne peut pas mépriser le nouveau. Le doué ne peut pas mépriser le moins doué. Si tu fais ça, si tu es injuste vis-à-vis de ton frère, alors tu te rends coupable d'imputer ou d'amputer, et c'est une violence auprès du corps de Christ. C'est grave. Ne soyons pas un obstacle à la croissance du corps de Christ, par nos attitudes, des fois, qui seraient dans l'erreur. L'Église est aussi une famille où Dieu est le Père. Et alors quand je vois l'entrain que nous avons pour nous retrouver, nous réjouir ensemble, je me dis, ah, il y a quelque chose de la famille de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu aussi qui nous anime et qui nous fait vivre cela ensemble. Deuxième image que Paul utilise tout le temps, c'est la famille. Pas une famille au sens vague, pas une famille au sens fort, mais avec un père, avec des frères, avec des sœurs. Et c'est une maison, c'est un lieu. Dans Éphésiens, au chapitre 2, au verset 19, « Vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Ce que ce mot change pour nous, c'est que la famille, ça veut dire que je n'ai pas choisi les autres. Moi, mes frères, au sens biologique, du terme, je ne les ai pas choisis. Et tu es né dans cette famille-là, tu ne choisis pas tes frères, mais ils sont là. Et ils sont là jusqu'au bout, pour toujours. Eh bien, l'Église, c'est pareil. Tu ne choisis pas tes frères et tes sœurs. Et Dieu nous les donne. Dieu a donné mon frère, ma sœur, avec son caractère, avec parfois des difficultés, mais merci Seigneur, apprends-moi à l'aimer. Certains nous ressemblent, d'autres pas du tout. Certains nous plaisent tout de suite, et d'autres ça demande du travail, ça demande de la prière, ça demande de nous frotter parfois, ça nous demande de la patience, de la persévérance. Mais tous, ils sont de la famille et pour toujours. Et notre désir et notre vision devraient être en permanence, en permanence, pardon, que aucun ne se perde. C'est d'ailleurs pour cela que Paul parle aussi souvent de l'amour fraternel. Pas d'amour pour un copain qu'on a vu une fois de temps en temps, qui passe, mais l'amour vrai, l'amour qu'on a pour un frère, l'amour qui se soucie de l'autre, du bien de l'autre. Cet amour qui tient quand on arrive à avoir des difficultés d'entente, à dépasser le conflit, à dépasser l'incompréhension. Cet amour qui pardonne. Cet amour qui ne lâche rien, même quand ça ne va pas. L'apôtre Paul aux Romains dit ceci au chapitre 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. L'Église, c'est une fiancée qui attend le retour de son Seigneur, de Jésus-Christ. C'est la troisième image. Elle est peut-être la plus belle. Paul dit que l'Église, c'est la fiancée de Jésus. Quelle déférence. Ce n'est pas son employé, ce n'est pas sa servante, c'est sa fiancée. Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 27. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Est-ce que nous mesurons ? Quand Paul cherche une image pour dire à quel point Jésus aime l'Église, il prend l'image la plus forte qu'il connaît. Un homme qui aime sa femme à en mourir. Un homme qui aime sa femme à en mourir. Et qui donne sa vie. Et donc l'Église, ce n'est pas un projet humain raté qu'on essaie de rafistoler. Non, pas du tout. C'est la fiancée de Jésus. C'est celle pour qui il est mort, pour qui il a tout donné, pour qui il a souffert. C'est un amour sacrificiel qui nous dépasse. Mais il nous appelle à comprendre cela. Et c'est celle qui prépare, c'est celle qui vient chercher bientôt. Ça veut dire deux choses très simples. La première, si Jésus aime tellement son Église, tu ne peux pas dire « J'aime Jésus, mais je n'aime pas son Église ». Si Jésus aime tellement son Église, je ne peux pas dire « j'aime Jésus, mais l'Église... » C'est comme si on disait à un ami « écoute, toi je t'aime bien, mais ta femme, je ne t'aime pas du tout. » Vous sentez qu'il va y avoir un malaise. Quelle est cette amitié ? Par respect, par honneur, fais l'effort. Apprends à l'aimer, apprends à la connaître. Sois patient. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui, l'Église de Moissy-Cramayel, est-ce que nous sommes arrivés ? Est-ce que tout est fini parce qu'on est dans l'Église ? On n'est pas arrivé. On est en chemin. On sait qu'il y a des défauts. On veut être lucide, on veut être clairvoyant. On veut pouvoir regarder la glace. Se dire oui, il y a encore des tâches. Mais Jésus est en train de la laver. Jésus a fait ce qu'il fallait pour laver la souillure. Jésus nous prépare. Jésus nous amène à venir et à grandir et à devenir à sa stature, sainte, parfaite. Et s'il le dit, c'est que cela n'est pas possible par nos propres efforts, mais par son esprit, en nous laissant modeler, transformer par sa vie, en nous. L'apôtre a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Nous sommes appelés à le laisser vivre en nous, prendre toute la place. Et un jour, il viendra nous chercher. Et est-ce que l'histoire s'effondre avec sa venue ? Non. Elle finit par des noces. Et les noces, c'est quoi ? Les jeunes mariés, là, c'est quoi les noces ? C'est le début. C'est le début de l'histoire. d'une histoire de deux êtres qui s'aiment profondément et qui veulent vivre en commun, qui veulent grandir ensemble, continuer à marcher. Et là, pour nous, l'éternité auprès de Christ, dans une paix indescriptible, dans une joie, dans une félicité, dans quelque chose que nous n'arrivons même pas à mesurer, goûter, toucher du doigt, et encore. Et comme dans la présence de Dieu, il n'y a ni faute, ni souillure, rien qui ne peut résister, Christ a fait ce qu'il fallait à la croix pour que nous puissions bénéficier gracieusement de sa présence, couvert, revêtu par lui. Dans Apocalypse, nous nous réjouissons, nous, et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Je vous lis la suite, parce que je vois qu'elle n'apparaît pas. Alors, pour conclure et arriver au bout de ce message, parce que nous avons chaud, et je voudrais qu'on revienne là où on a commencé sur l'histoire de Claude. Trois moments. Avant, quand il a rencontré Jésus, puis après avec le baptême. Peut-être première question pour ceux qui sont là, sans avoir rencontré Jésus encore. Vous l'avez entendu, Jésus n'est pas... Et l'Église, pardon. Jésus est la tête de l'Église, mais l'Église n'est pas un bâtiment où on entre par hasard. C'est plutôt un appel, une convocation. Et il est là ce matin, et il appelle chacun, et il a appelé chacun d'entre nous. Pas par hasard, mais par son prénom. Et peut-être que certains n'ont pas encore fait ce choix-là, mais moi je pose la question, et le Seigneur te pose encore la question ce matin, est-ce que tu veux répondre à cet appel, dans ton cœur, dans ta vie ? Deuxième question pour ceux qui ont rencontré Jésus mais qui restent peut-être à distance. Peut-être à distance de l'Église. Tu n'es pas fait pour vivre tout seul ta foi. Jésus ne l'a pas prévu ainsi. Et personne ne l'est. Nous l'avons vu, un membre coupé du corps meurt. Doucement, mais il meurt. Alors, où est ta famille ? Où est le corps de Christ ? Où est ta place ? Où est ta place dans l'Église ? Tu as une place dans l'Église. J'aimerais vous dire combien de fois nous prions, nous intercédons pour ceux et celles que nous avons connus et que nous connaissons, qui ont fait un pas de côté, et tellement un pas de côté, ils en ont fait un deuxième, et qui aujourd'hui ne sont plus nulle part. Continuons de prier, d'intercéder pour eux, qu'ils retrouvent le chemin de la présence de Dieu. Si Dieu nous a donné un corps et une église, c'est pour être solide, ferme dans la foi, nous encourager, nous relever les uns les autres, nous tendre la main toutes les fois où nous avons chuté. Non pas pour nous condamner, mais pour pratiquer la grâce, le pardon. C'est l'expression de l'amour de Dieu, c'est ce que Christ a fait. Pierre qui a renié le Seigneur lui-même, qu'il a connu, il lui tend la main, il le pardonne. Et il fait de lui, il bâtit, il l'utilise pour l'Église primitive. Voyez ce que Dieu est capable de faire avec des vies brisées, avec nos vies brisées. Ça ne dépend pas de nos forces, ça dépend de l'Esprit qui vit en nous, un esprit de consolation, de réconciliation avec le Père, pour vivre dans sa présence quelque chose, goûter à cela. Alors peut-être troisième question et dernière question pour ceux qui sont baptisés aussi et qui sont là chaque dimanche matin. Est-ce que tu vis l'Église comme public ou comme un corps ? Je viens peut-être à l'Église parfois un peu en tant que spectateur parce que ça s'est un peu refroidi à l'intérieur de mon cœur. Ça brûle difficilement. Alors laisse-toi ranimer par Christ. C'est vraiment une invitation. Laisse-toi rafraîchir par Christ. Il y a tellement de fardeaux, tellement de choses dans cette vie qui nous cognent, qui nous fait violence. Mais venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Mon joug est doux et léger, je vous donnerai du repos. C'est la promesse d'un Seigneur et Sauveur qui a les moyens de le faire. Ce n'est pas la promesse d'un homme. C'est la promesse d'un Dieu tout-puissant, vrai, véritable, agissant. Je vais vous inviter à prier à présent. Dieu de paix, Père céleste, toi qui aimes profondément ta création, tu nous rappelles et tu nous appelles à te connaître, à te chercher, à faire ta volonté. Tu nous appelles à compter sur toi pour grandir dans cette famille que tu nous donnes, avec ton aide, avec ton secours, avec ton Esprit Saint. Dans la présence de tous les saints, tu nous appelles à te faire confiance, à marcher avec foi, à persévérer dans ton Église, à grandir, à devenir des adultes spirituels. Merci Seigneur, parce que tu sauves du jugement qui vient. Tu nous couvres de ta grâce. Nous venons vers toi et ton pardon, ta grâce est suffisant. Tu nous appelles à la repentance encore, à aimer, à ne pas nous lasser, à prier, à persévérer. Merci de nous aider à pratiquer ton amour et ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen.